semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 6 octobre, on se retrouve pour revivre 7 jours d'événements grâce à la richesse des reportages, de nos correspondants et de nos envoyés spéciaux. Vous savez que vous pouvez aussi écouter et réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr et sur l'application RFI. Cette semaine, nous allons nous rendre au Brésil, aux États-Unis, en Guinée et au Cameroun, par exemple. Une semaine d'actualité donc, merci de votre fidélité. Nous allons parler de l'Afrique et du fameux franc CFA avec notre invitée aujourd'hui, Fanny Pigeot, journaliste qui avec Ndongo Samba Sila vient d'écrire « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », un livre publié aux éditions La Découverte. Bonjour Fanny Pigeot.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver à ce micro. Il y a 2 ans à peu près, nous avions parlé de la Côte d'Ivoire avec vous à partir d'un travail, d'un livre que vous avez fait sur ce pays, sur l'histoire récente de ce pays. Et là, vous vous intéressez donc à cette question du franc CFA avec Ndongo Samba Sila, un sujet à la fois polémique, épineux et ancien.
Ancien, oui, puisque le franc CFA existe depuis 1945. La zone franc, elle, existe depuis 1939, donc effectivement, ça fait 70 ans que le franc CFA existe. Et nous, on dit, avec mon co-auteur, que c'est un anachronisme institutionnel, parce que, voilà, c'est une monnaie qui reste créée sous la colonisation pour des raisons coloniales, et qui a toujours cours aujourd'hui, et c'est assez, ça pose beaucoup de questions.
Alors, Fanny, le franc CFA, en tant que tel, est né en 1945, pour être précis, pour quelles raisons, précisément ?
À l'époque, il s'agissait de, pour la France, puisque c'est la France qui a créé cette monnaie, d'avoir les colonies sous son contrôle, les colonies africaines, les faire participer à l'effort de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Elle avait besoin, cette métropole, de reconstituer des sources d'approvisionnement en matières premières qui soient fiables. Et donc voilà, le franc CFA facilitait cette entreprise-là.
Et vous expliquez très bien dans le livre que ce franc CFA a considérablement évolué avec le temps. Même si la logique qui a présidé à sa création demeure.
La logique est toujours la même. C'est une logique, effectivement, qui sert les intérêts de la France et de l'État français et des entreprises françaises. Alors, ce qui a changé un peu, effectivement, c'est l'habillage institutionnel, puisqu'au départ, les banques centrales, celle qui est basée au Cameroun, la BEAC, et celle qui est basée au Sénégal, la BCAO, au départ, quand elles ont été créées, elles étaient basées à Paris. Et aujourd'hui, voilà, dans les années 70, on les a déplacées, et puis le personnel de ces banques a été africanisé, comme on dit. Mais bon, encore une fois, effectivement, le principe de fonctionnement reste le même.
Avec des tournants, et nous allons reparler de ces tournants, par exemple en 1994, avec la dévaluation du franc CFA, qui
voilà.
Était un grand sujet de discussion à l'époque.
Hein. Grand sujet de discussion, et qui était pas du tout voulu, cette dévaluation, par les chefs d'État des pays concernés, et qui a été imposée finalement par le FMI et la France.
Alors avant de vous écouter, de vous réécouter, Fanny, et continuer à parler du franc CFA, parlons de la création à New Delhi d'une alliance solaire internationale. C'est nouveau. C'est une organisation inaugurée en mars dernier qui doit aider les pays du monde entier, et particulièrement les pays pauvres, à accéder à l'énergie solaire à bas prix. Correspondance de Sébastien Farcy.
Les pays qui ont le plus grand potentiel de développement en énergie solaire se trouvent bien sûr sous les tropiques. Cette alliance solaire internationale leur était donc destinée. Mais cette restriction empêchait d'autres États intéressés, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, d'en bénéficier. Et surtout, cela excluait des pays européens qui pouvaient, eux, apporter expertise et financement, comme l'explique la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique, Brune Poirson.
Il y a beaucoup de pays, comme par exemple l'Allemagne, qui ont des solutions tout à fait intéressantes et innovantes dans le domaine de l'énergie solaire, il faut que l'Alliance puisse en bénéficier aussi. De même qu'il y a d'autres pays, au-delà des tropiques, qui ont des capacités et des besoins en développement solaire et ils doivent aussi, ces pays-là, en bénéficier.
La France a promis d'attribuer d'ici à 2022 1 milliard d'euros de prêts aux pays de l'Alliance solaire. 800 millions ont déjà été attribués et l'essentiel est allé aux pays africains. Cela a permis de financer la plus grande ferme solaire du Sénégal d'une capacité de 30 mégawatts. L'Alliance solaire internationale a également créé un réseau de centres de formation dans le solaire qui permet aux pays du Sud de bénéficier de l'expertise de chercheurs pointus dans le domaine venant entre autres de France et d'Inde.
Fanny Pigeot, partons maintenant pour la Guinée qui fêtait officiellement ses 60 ans, c'était mardi. Reportage à Conakry de Carole Valade.
Pour faire patienter la foule, éreintée par la chaleur, le Bembeya Jazz reprend ses grands classiques.
La Guinée a 60 ans.
Le thème est panafricaniste, les grandes figures des luttes de libération dont Ahmed Sékou Touré ornent les tribunes.
Nous sommes fiers de ces héros qui nous ont donné l'indépendance. C'est pourquoi on dit une souveraineté assumée.
L'arrivée du chef de l'État, saluant la foule depuis son véhicule, donne le coup d'envoi des festivités. À ses côtés, une dizaine d'homologues africains, dont Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso, Macky Sall ou encore Ali Bongo. Les fonctionnaires défilent en premier, suivis des différents corps d'armée.
Je vois un défilé grandiose. Mais au centre, avec une grande animation, des fanfares qui sont là. Et ça me rappelle ma jeunesse.
Ça fait 60 ans que nous sommes une nation. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles.
Qu'est-ce que vous souhaitez à la Guinée pour les 60 prochaines années?
Plus de démocratie, plus de valeur, de l'unité de Guinéenne, plus de travail pour la jeunesse, plus de santé pour tout le monde.
Des années que la Guinée n'avait pas organisé de défilé, mes enfants s'en souviendront toute leur vie, confie un spectateur.
Alors nous revenons à Paris et on va parler de la Guinée dans ce numéro d'une semaine d'actualité. Il faut s'arrêter sur ce qui s'est passé en Guinée lors de l'indépendance, décidée en 1958, il faut le rappeler, référendum, vote des Guinéens qui décident de quitter la communauté française proposée par le général de Gaulle en 58 avec la Constitution. Et là, donc, la Guinée quitte le franc CFA.
Alors, pas au départ. L'idée au départ de Sékou Touré, le président de l'époque, c'était de rester dans la zone franc, mais avoir des règles un peu plus souples dans la gestion de cette monnaie. Et donc voilà, l'idée c'était pour lui de rester quand même dedans. Mais Paris n'a pas voulu, parce que si Paris avait donné, enfin assoupli ses règles, il aurait fallu, pour la Guinée, il aurait fallu que voilà, la France fasse de même pour les autres pays. Et finalement, effectivement, la Guinée a quitté la zone franc, a créé sa propre monnaie. Et bien, la Guinée a été ensuite punie. Il y a eu toute une série d'opérations de déstabilisation du pouvoir guinéen.
Et notamment une opération en Persil dont vous parlez, dont on va parler dans un instant et que vous développez dans votre livre. Je voudrais signaler que beaucoup d'auditeurs nous ont écrit cette semaine pour célébrer en quelque sorte la Guinée. J'en veux pour preuve, Fanny Pigeot, un message d'un auditeur qui s'appelle Oumar et qui vit à Conakry. Il écrit « J'aime ma patrie et je suis fier d'être aujourd'hui guinéen, l'héritier de papa Sékou Touré. Beaucoup d'éloges de Sékou Touré, beaucoup d'éloges de ce pays, la Guinée. » Il faut quand même rappeler, pour être totalement objectif et honnête, que Sékou Touré, c'est aussi 50 000 personnes assassinées selon Amnesty International entre 1958 et 1984, date de sa mort. Et c'est aussi les tortures au sinistre camp Boireau à Conakry. Mais parlons donc de ce franc CFA. Les Français, vexés en quelque sorte de voir partir la Guinée, décident de perturber l'économie guinéenne, naissante, vraiment naissante, en organisant cette opération Persil. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agissait tout simplement pour les services secrets français de fabriquer des faux billets de francs guinéens et de les déverser sur le marché du pays. Et l'objectif, donc voilà, c'est effectivement de déstabiliser, et c'est ce qui s'est passé. Le franc guinéen a perdu énormément de sa valeur. valeur, évidemment, et ça a contribué à donner une situation économique très difficile pour le pays.
Une opération menée par les services secrets français de l'époque. Là, on est au cœur de la France-Afrique, pur sucre, dirais-je. Revenons au franc CFA aujourd'hui. On peut parler de trois francs CFA, en quelque sorte, non ?
Effectivement, puisqu'il y a le franc de l'Afrique centrale, la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et l'acronyme à chaque fois est différent, c'est-à-dire que CFA ici, en zone CEMAC, signifie coopération financière en Afrique centrale. Et puis il y a un autre franc CFA en Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest.
Qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Voilà, et ces huit pays ont un franc CFA dont l'acronyme signifie communauté financière africaine. Et puis enfin, il y a une troisième monnaie qui, c'est le franc comorien, qui a aussi une banque centrale spécifique et qui, lui, fonctionne exactement sur les mêmes règles, mais a une parité différente avec l'euro, parce que tout se joue sur une parité fixe avec l'euro pour ces trois monnaies.
Alors, il y a eu la parité fixe avec le franc, et aujourd'hui, évidemment, depuis 1999, c'est la parité avec l'euro. Quelle marge de manœuvre ont ces pays africains par rapport à cette monnaie ? Aucune ?
Eh ben, c'est bien ça le problème, effectivement, qui est avancé par de nombreux économistes africains, c'est que il y a plusieurs principes de fonctionnement, et tous ces principes, en fait, créent des handicaps pour cette monnaie. Alors, on va peut-être pas entrer dans les détails, mais l'un des premiers handicaps, on va dire, c'est que pour défendre cette parité fixe avec l'euro, les banques centrales sont obligées de limiter le crédit intérieur, c'est-à-dire le crédit qu'elles accordent aux ménages, aux États, aux entreprises, ce qui fait que ça ne permet pas à l'économie de se développer, et les États même sont obligés de s'endetter ailleurs, ce qui est assez invraisemblable.
Alors ça, c'est une des raisons du mécontentement, pour ne pas dire plus, des Africains en général, de ces zones. Mais il y a aussi un avantage, en revanche, des avantages du côté français.
Bien sûr, parce que c'est l'État français, c'est le Trésor français qui gère cette monnaie.
Et qui la fabrique d'ailleurs, entre parenthèses.
Voilà, qui la fabrique aussi, effectivement, à Chamalières pour les billets et à Pessac pour les pièces. Et ben voilà, quand un État contrôle la monnaie d'autres États, c'est évident qu'il contrôle aussi l'économie et que ça dérive très vite sur le politique. Et voilà, ce système, on l'a appelé système CFA justement dans notre livre, parce qu'on a affaire à une grosse machine qui n'est pas que monétaire.
Alors, c'est une monnaie qui est rejetée par beaucoup d'Africains. On l'a constaté encore avec les messages cette semaine. J'ai pas le temps d'en citer, mais il y en a eu beaucoup. Mais c'est une monnaie qui se fait aussi avec les dirigeants africains.
Bien sûr.
Avec certains d'entre eux qui ont accepté cette monnaie.
Oui, on est dans une relation de dépendance, de pression. C'est très difficile pour un dirigeant africain de s'y opposer. Et l'histoire des années 70, qu'on raconte aussi dans le livre, mais aussi des années 60, le montre. Un certain nombre de dirigeants ont voulu sortir de ce carcan, on va dire.
Et assez vite, d'ailleurs, dans les années 70. Déjà.
Voilà, ça a commencé même dans les années 60, avec le Mali de Modibo Keïta, Sylvanus Olympio au Togo. Et lui, il a été assassiné. Il y a de fortes présomptions que c'était en lien avec cette monnaie togolaise qu'il voulait créer. Voilà, c'est très difficile, très compliqué pour un dirigeant africain de s'opposer à ce système.
Sept jours dans le monde. Partons pour l'Amérique latine maintenant, Fanny Pigeot. Le Brésil va vivre en effet demain le premier tour d'une élection présidentielle polarisée comme jamais, avec pour la première fois un candidat d'extrême droite en position de favori, l'ex-capitaine de l'armée Jair Bolsonaro, apologiste de la dictature des années 60 dans le pays. Toute la semaine, Harim Lipold vous a proposé des reportages sur la société brésilienne divisée, tel celui-ci dans un quartier de Recife sur la côte atlantique.
Nous sommes à Brasilia Teimos, un quartier populaire dont le nom Brasilia Tetu est un hommage à l'esprit de résistance de ses habitants. Chaque fois que les autorités les en ont délogés, ils sont revenus dans leurs habitations insalubres. Ce jeu du chat et de la souris a duré jusqu'en 2002. Lula, alors élu président, décide de réhabiliter une fois pour toutes cet ancien village de pêcheurs. Jean, qui vend des poulets grillés sur le marché, s'en souvient.
À Brasilia Teimos, il y avait des maisons et des pontons de bois au bord de la mer. Lula les a démolis et a construit de vraies maisons. Les gens l'adorent parce qu'il les a beaucoup aidés.
C'est le cas pour Adriana, une mère de famille qui doit beaucoup, dit-elle, au PT.
Mon fils a fait une formation de physiothérapeute cette année et il a reçu une bourse grâce au programme Pro-Uni mis en place par le Parti des Travailleurs. J'ai également bénéficié de l'aide sociale, la Bolsa Familia, mais à présent, je ne la touche plus car mes enfants sont grands.
Et pourtant, cette année, Adriana donnera pour la première fois sa voix à un candidat qui n'est pas du PT.
Je ne partage pas le projet de la colistière du candidat Fernando Haddad qui veut introduire la question du genre à l'école. Ça me rend triste parce que sinon j'aurais voté pour le Parti des Travailleurs.
João, lui aussi, soutenait d'habitude le Parti de Lula, mais à présent, il fait partie des électeurs très convoités ces jours-ci, les indécis.
Il manque un vrai dirigeant qui dise « Allez, on va changer les choses, construire des hôpitaux et des routes pour relancer l'économie. »
Son rêve, que le Brésil devienne un pays du premier monde, comme il dit.
Ces élections présidentielles et locales aussi, avec l'élection des gouverneurs, sont bien sûr à suivre dans nos journaux. Écoles, universités et administrations publiques fermées, magasins aux rideaux tirés, les Palestiniens de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est se sont mis en grève lundi en soutien aux Arabes israéliens qui protestent contre la loi sur l'État-nation. Je rappelle que la loi fait d'Israël l'État-nation du peuple juif. Elle a été adoptée en juillet dernier par le Parlement. Elle stipule que seuls les juifs ont le droit à l'autodétermination en Israël et elle retire par ailleurs à l'arabe son statut de langue officielle. Aux côtés de l'hébreu, les Bédouins qui vivent dans les territoires palestiniens sont quant à eux priés de partir. Reportage de notre correspondant Guillaume Deltaï.
Ce lundi était une journée de grève dans les territoires palestiniens. L'école de Khan al-Ahmar était donc fermée, mais Manal sait se faufiler par la fenêtre entrouverte dans sa salle de classe. Le bâtiment est sommaire, il a été construit en boue et en pneus, mais cette petite fille en troisième année de maternelle l'aime bien et elle désigne fièrement son bureau. Mais son école, comme le reste du village, est menacée de destruction par les Israéliens. Ils peuvent commencer à démolir ce soir, peut-être demain, vous ne savez jamais, précise Hussein Abu Daouk, l'un des habitants de la communauté. Les autorités israéliennes ont donné jusqu'à ce lundi soir aux Bédouins pour partir de leur plein gré, mais les tentes des habitants sont toujours là. Bien sûr, c'est ma terre. Où irai-je? Je ne quitterai pas ma terre, promet Hussein Abu Daouk. Nous resterons et nous serons fermes. Nous nous battrons pour survivre, assure le quinquagénaire. Au sein de la communauté, la motivation est la même pour tous. Nous ne partirons que par la force, prévient Aïd Abou Khamis, le représentant de ces résidents menacés d'expulsion.
Une semaine d'actualité.
Partons pour les États-Unis, Fanny Pigeot, avant de vous retrouver. Pour revenir sur la création d'un nouveau marché économique, trois pays sont concernés, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donald Trump avait critiqué l'ALENA, un autre accord donc lui succède. À San Francisco, les explications d'Éric DeSalve.
Depuis les jardins de la Maison Blanche, Donald Trump vante un nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada historique. USMCA, un nom qui sonne bien, dit Donald Trump. Après 13 mois de négociations, il remplace l'ALENA, l'accord de libre-échange signé en 1994 entre les trois pays. L'ALENA était peut-être le pire accord commercial jamais signé par les États-Unis, dit le président américain. Depuis son adoption, assure Trump, les États-Unis ont cumulé 2 trilliards de dollars de déficit commercial, perdu 4,1 millions d'emplois industriels et 25% de leurs emplois du secteur automobile. Donald Trump avait justement forcé ses négociations pour faire revenir ses emplois. Le nouvel accord incite les constructeurs à se fournir en pièces détachées en Amérique du Nord et réduit les différences de coût du travail avec le Mexique. En échange, Canada et Mexique restent exemptés de douane sur un quota de 2,6 millions de véhicules exportés. Pour les faire céder, Trump leur avait lancé un ultimatum avant d'imposer 25% de tarifs sur ces exportations. Mexique et Canada vendent finalement un accord bénéfique pour eux aussi, malgré la colère des producteurs de lait canadiens dont le marché s'ouvre un peu plus à la concurrence américaine et la non-levée des taxes douanières imposées au printemps par Washington sur l'aluminium et l'acier. Une négociation au forceps payante selon le président américain qui en profite pour justifier sa guerre commerciale avec la Chine.
Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Fanny Pigeot qui, avec Ndongo Samba Silla, vient d'écrire « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA », un livre publié aux éditions La Découverte. Ce franc CFA n'a rien à voir avec ces accords de libre-échange tels qu'on a pu aussi les voir entre l'Europe et l'Afrique, par exemple, APE.
Effectivement, non, ça n'a rien à voir. Mais on peut quand même préciser que il y a eu des accords monétaires imposés aux indépendances des pays africains par la France. Et voilà, le franc CFA était dedans. Et c'est pour ça qu'à l'indépendance, ces pays ont gardé le franc CFA.
Ça veut dire qu'à l'indépendance, la France a obligé certains pays à exporter exclusivement en France des richesses, c'est ça des...
Oui, il y avait un accord commercial, un accord monétaire. Enfin, l'accord monétaire disait que voilà, si vous voulez l'indépendance, vous restez dans la zone franc. Et les accords commerciaux, eux, disaient mais il faut commercer avec nous prioritairement. Voilà, dans ce package... Enfin voilà, les avantages étaient pour la France et c'était soit vous n'acceptez pas et pas d'indépendance, soit vous acceptez et d'accord, on vous accorde cette indépendance finalement assez fictive.
Alors vous prenez l'exemple du Gabon, vous écrivez ainsi l'accord de coopération portant sur les matières premières et produits stratégiques qu'elle conclut avec le Gabon le jour de son indépendance, le 17 août 1960, stipule, et la précision est importante, la République gabonaise facilite au profit des forces armées françaises le stockage des matières et produits stratégiques. Lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elle limite ou interdit leur exportation à destination d'autres pays. Ça, c'est clair.
C'est clair et ça a été la même chose pour les autres pays africains qui avaient été colonisés ou administrés par la France. C'est à peu près les mêmes libellés qu'on retrouve.
Mais certains pays se sont rebellés contre ça, certains dirigeants.
Bon, en fait, il y a eu deux périodes de rébellion. Il y a eu le début des années 60 et puis le début des années 70. Et au début des années 70, beaucoup de pays voulaient remettre en cause l'ensemble de ces accords de coopération qui avaient été imposés par la France. Et ben, ça a marché pour deux pays, Madagascar et la Mauritanie, qui, beaucoup de ces accords ont été en partie revus.
Parce que la Mauritanie a créé sa propre monnaie.
Voilà. Et pour Madagascar et la Mauritanie, ce sont les deux seuls pays qui, eux, ont quitté la zone franc et créé leur monnaie. Ça n'a pas été facile, mais voilà, ils y sont parvenus.
Alors, il y a eu une autre période de changement, c'est là très précisément, et là je vous cite Fanny Pigeot, entre décembre 72 et décembre 73.
Oui, parce que
les changements sont apportés au fonctionnement de la zone franc, conformément à des promesses du président de l'époque, Georges Pompidou.
Voilà, et qui était la conséquence de ces protestations de ces chefs d'État qui ont obligé les autorités françaises à faire quelques petits changements cosmétiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a déplacé les sièges des banques centrales, on a africanisé, donc on a mis plus de personnel africain que français. Et puis voilà, les accords ont été un peu revus, mais tout ça c'était en surface. Le principe de base était toujours là et il reste là aujourd'hui.
Alors il y a un autre chef d'État de l'époque qui s'est rebellé, qui a essayé de changer les choses. C'est le père du Niger, de l'indépendance du Niger, Amani Diori.
Oui, c'est très intéressant de se repencher sur toute cette histoire.
Parce que le Niger n'est pas n'importe quel pays pour la France.
Absolument, il y a de l'uranium au Niger qui est exploité par les Français. Et lui, il a été l'un des premiers à essayer d'envisager d'autres relations avec la France et surtout une autre forme de coopération monétaire. Et il avait fait travailler à l'époque l'économiste franco-égyptien Samir Amin, qui est décédé il y a quelques semaines. Et Samir Amin, voilà, lui avait proposé tout un plan de sortie de la zone franc qui est encore valable aujourd'hui. Quand on le relit aujourd'hui, on se rend compte que toutes ces propositions de l'époque, donc fin des années 60, début des années 70, sont encore valables aujourd'hui. C'est assez extraordinaire de voir que il y a 60 ans, 50 ans, les arguments avancés pour une sortie de la zone franc sont toujours valables aujourd'hui.
Mais ces arguments reste dans les tiroirs, j'imagine.
Oui, c'est pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement en vue, effectivement.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler un peu de la France, justement, Fanny Pigeot, avec la démission de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Intérieur. Désormais, Emmanuel Macron a dû céder face à l'insistance de son allié, pourtant de la première heure, Valérie Gasse, mercredi avant le Conseil des ministres.
Cette fois-ci, le président de la République n'a pas fait durer le suspense. Il a choisi la solution la plus rapide et la plus efficace pour mettre un terme à ce qui devenait un feuilleton à rebondissement, à savoir la démission de Gérard Collomb, présentée deux fois en deux jours par le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe d'assurer l'intérim. Un peu plus tôt dans la soirée, des rumeurs sur l'annulation d'un voyage du Premier ministre prévu cette semaine en Afrique du Sud avaient semblé montrer que le dossier Collomb était bel et bien prioritaire pour l'exécutif. Édouard Philippe avait lui-même fait preuve de détermination en déclarant à l'Assemblée nationale mardi après-midi qu'il allait prendre ses responsabilités et faire des propositions au chef de l'État. Sans vraiment reprendre la main politiquement, Emmanuel Macron cherche à éteindre l'incendie et à gagner du temps pour trouver le bon candidat à la succession de Gérard Collomb, sans pour autant laisser à l'opposition la possibilité de continuer à critiquer le danger de laisser le ministère stratégique de l'Intérieur en déshérence, sans personne à la barre. Le Conseil des ministres va donc pouvoir se dérouler ce matin, comme prévu, mais sans Gérard Collomb.
Et revenons maintenant sur la mort de Charles Aznavour, chanteur et acteur, star française et internationale d'origine arménienne. Un hommage national lui a été rendu hier matin à Paris et en Arménie aussi. Arménie en proie, vous le savez, à une crise politique à quelques jours du 17e sommet de la francophonie d'Yerevan. La semaine prochaine, dont nous parlerons d'ailleurs sur RFI, dans la patrie des Arméniens, Charles Aznavour est un héros, une légende. Reportage par exemple dans une école d'Yerevan, signé Constance Léo.
Les 15 élèves de la classe de Martin Becker, qui ont entre 9 et 10 ans, étudient régulièrement les textes de Charles Aznavour, comme ce mardi matin. Pablo Serrano Vu est hispano-vietnamien, il n'hésite pas à venir au tableau.
La mort de Charles Aznavour. On le croyait immortel. À le voir encore debout sur scène à 94 ans.
Une vive émotion secoue encore la classe face aux questions de leur professeur. Svetlana Arenian est arménienne. Elle a grandi avec les chansons d'Aznavour.
Moi, elle m'avait dit quand je devais, avant d'aller au piano, j'étais un peu triste.
Toi, tu étais triste? Et
oui.
Ma
maman, elle était triste. Elle était un petit peu triste.
Martin Becker est le directeur de l'école française en Arménie depuis 10 ans. À 57 ans, il est aussi professeur des écoles pour cette classe. Pour lui, les chansons de Charles Aznavour sont un classique et un moyen d'introduire les élèves à l'univers culturel francophone.
On essaie surtout de faire participer les enfants, parce que le but, c'est purement qu'on soit actif, qu'on ne soit pas là, qu'on ne soit pas de simples consommateurs.
La plupart des 250 élèves préparent déjà en classe leur participation au pavillon France pour le sommet de la francophonie qui débute le 10 octobre prochain dans la capitale arménienne.
Deux tziganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Perras, ischoras, ischomanaga managaras, perras, ischoras, ischomanaga managaras. Jouez, Zigane, jouez pour moi.
Suite d'une semaine d'actualité, nous continuons à parler du France CFA côté Paris cette fois. Est-ce que, Fanny Pigeot, est-ce que le président Macron a une doctrine différente de ses prédécesseurs en la matière?
Pas vraiment. En tout cas, bon, il a fait des déclarations qui semblaient vouloir dire qu'il était ouvert à certaines progressions, on va dire. Non. Mais en réalité, on voit bien que dans son discours, il n'est pas question de changement. C'est assez clair parce qu'il dit par exemple qu'il est ouvert aux demandes faites par des chefs d'État africains, mais qui, des demandes qui seraient faites par tous les chefs d'État. Et on sait très bien qu'ils sont pas aujourd'hui d'accord les uns et les autres. Donc voilà, dire ça n'engage à rien en fait.
Ça veut dire que pour la France, ce France CFA est toujours extrêmement important, voire stratégique en matière économique.
Oui, il est peut-être de plus en plus, puisque la France perd sur le plan commercial des parts de marché dans ces zones-là, et que le franc lui fournit un avantage comparatif. Et encore une fois, pas seulement économique, mais politique.
Pourtant, la zone franc représente, dites-vous, environ 1% du commerce extérieur de la France, c'est peu.
C'est peu, et comme on le dit aussi, ensuite, c'est que...
C'est pour ça que je vous laisse le dire.
Ben voilà, c'est que on en tire de cette zone franc des produits hyper stratégiques comme l'uranium, qui est indispensable pour notre économie, pour notre défense. Donc voilà, c'est une petite part, mais en réalité, c'est une grosse part. Et puis pour un certain nombre de grands groupes français, ça représente beaucoup dans leur chiffre d'affaires.
Alors, commerce extérieur avec l'Afrique est en chute libre d'ailleurs, si j'en crois les chiffres que vous publiez.
En part de marché, ouais. Mais... Voilà, les parts se réduisent, mais le gâteau est toujours là.
Est-ce que pour la France, quand même, ce franc CFA ne lui permet pas de résister face à ce nouvel environnement international en Afrique, qui est l'arrivée massive des Chinois, la présence de l'Inde. On parlait de la Guinée tout à l'heure, la production de bauxite, qui pose d'ailleurs des problèmes d'environnement, d'après Human Rights Watch, va en Chine.
Oui, 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 c'est ce qu'on explique, c'est que la zone franc, le fait que la France contrôle toute cette zone, lui permet de garder un certain nombre d'avantages et d'avoir toujours la main sur certaines ressources stratégiques. Et puis, bon, je le redis, mais sur le plan politique, c'est énorme. Ça lui apporte une place sur la scène internationale. Grâce à cette zone franc, elle peut revendiquer toujours son statut de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est très important.
Alors, prenons un exemple d'un pays que vous connaissez, d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, Fanny Pigeot. Vous dites, Bouygues, Keolis et Alstom ont obtenu le marché de la construction et de l'exploitation d'une ligne de métro à Abidjan, financée par un prêt français de un peu plus de 1 milliard d'euros accordé à la Côte d'Ivoire en 2017, grâce justement à ce franc CFA.
Oui, il y a un ensemble de dispositifs qui permet aux Français, par un certain nombre de pressions, d'être en gros le créditeur principal de ces pays. Et donc quand la France fait des prêts, non seulement ça lui rapporte des intérêts, mais ça lui donne des moyens de pression politique. Il y a toujours des contreparties dans un prêt.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas parler du franc CFA sans parler de la politique, en fait, de ce qu'on appelle la France-Afrique.
Oui, alors c'est ce qu'on...
On la croit disparue, mais elle est toujours là, finalement.
Elle est toujours là, et c'est la conclusion à laquelle on est arrivé en faisant ces recherches, c'est qu'en réalité, ce franc CFA, cette zone franc, c'est en grosse partie l'armature, le fondamental de cette France-Afrique. C'est que à partir de cette monnaie, on peut arriver à avoir tout un système contrôlé par la France.
Et donc, cette situation nous semble... bloqué. On ne sait pas, on ne voit pas comment les Africains aujourd'hui peuvent sortir de ce franc CFA, peuvent se séparer de ce franc CFA.
Alors effectivement, sur le plan politique, il y a peu de dirigeants qui veulent visiblement prendre des initiatives. Cela dit, sur le terrain, si on discute avec un certain nombre d'organisations, de citoyens ordinaires, il est évident que la contestation est de plus en plus forte et que ça va être très difficile de l'ignorer. Et puis, il y a un autre argument en faveur d'un changement qui va devoir se faire, c'est que sur le plan démographique, aujourd'hui, la zone franc actuelle est beaucoup plus peuplée que la France, ce qui n'était pas le cas quand elle a été créée, cette zone franc. Et pour l'État français, ça va être très difficile de justifier sa mainmise sur le système dans les années à venir. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire, notamment à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Gabriel, qui est un auditeur fidèle à Nouakchott. Je salue Elias à Cotonou, Ibrahima à Dakar, Gaël à Pointe-Noire, et je n'oublie pas, par exemple, Messan à Lomé et Souleymane à N'Djamena.
Une semaine d'actualité.
Direction l'Afrique maintenant, Fanny Pigeot au Burkina Faso d'abord. Victime de nouvelles attaques contre les forces de défense et de sécurité jeudi. Décidément, l'insécurité grandit dans le pays à Ouagadougou, Yaya Boudani.
7 soldats ont été tués dans cette nouvelle explosion et 2 autres blessés ont été évacués vers un centre de santé. Ces soldats se rendaient à Futuri, dans la région de l'Est, vers la frontière avec le Niger, pour renforcer un détachement déjà sur place. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé. Un peu plus tôt, dans la nuit du mercredi à jeudi, c'est le poste de gendarmerie de Inata, dans la province du Soum, qui subissait une attaque d'un groupe d'hommes armés. Arrivés dans 2 véhicules et sur plusieurs motocyclettes, les assaillants ont tué un gendarme et blessé un autre. De sources sécuritaires, on enregistre d'importants dégâts matériels. Plusieurs véhicules de la mine ont été incendiés et des dortoirs du personnel civil fouillés et du matériel emporté. Sur demande des autorités burkinabées, 2 avions Mirage 2000 de la force Barkhane ont décollé de Niamey pour intercepter les assaillants dans leur repli. Un drone avait d'abord été envoyé sur zone pour s'assurer qu'il s'agissait bien des terroristes qui venaient de s'attaquer au poste de gendarmerie selon un communiqué de l'état-major français. Aucun bilan de cette frappe aérienne n'est encore disponible.
La situation au Burkina Faso est bien sûr à suivre dans nos journaux. Partons maintenant pour les Pays-Bas où les audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo pour crimes contre l'humanité ont débuté lundi à la CPI et ont été suspendues mercredi. Pierre Firsion est à l'AE.
Cette demande de suspension n'est pas une surprise. Il se murmurait depuis lundi que la défense allait formuler une telle requête, notamment pour pouvoir étudier attentivement le rapport de plus de 1000 pages rédigé par l'accusation. La défense voulait également pouvoir réétudier les 2 journées d'audience de lundi et mardi, 2 journées au cours desquelles le substitut du procureur a tenté de démontrer que Laurent Gbagbo avait mis sur pied un plan concerté pour se maintenir au pouvoir et pour cibler systématiquement les civils pro-Ouattara, un dernier point sur lequel l'accusation est apparue fragile. L'accusation qui a confirmé qu'elle retirait 2 décharges contre Charles Blégoudé pour les crimes commis à Abobo en mars 2011. Un retrait qu'a dit ne pas comprendre la représentante légale des victimes. Pour elle, Charles Blégoudé a, je cite, « établi et organisé une structure qui a permis de commettre des crimes les 3 et 17 mars 2011 ». Malgré ce point de désaccord, Paulina Massida a dit soutenir la thèse de l'accusation et a appelé à la poursuite du procès pour que les victimes ne se sentent pas, a-t-elle dit, une fois de plus trahies.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Fanny Pigeot et nous sommes en ce moment en Afrique dans notre voyage dans l'actualité de la semaine. En Côte d'Ivoire, un pays que vous connaissez bien, Fanny Pigeot, un commentaire sur cette suspension de séance dans ce procès Gbagbo ?
Alors elle était attendue effectivement parce que le procureur a rendu un mémoire de plus de 1000 pages, donc la défense avait besoin de se préparer. Ce qui est aussi prévisible dans ce qui s'est dit. C'est la difficulté de l'accusation à prouver ses accusations, justement. Donc moi, voilà, je ne suis pas surprise par la manière dont les choses évoluent.
Alors revenons au franc CFA, qui est l'objet de votre nouveau livre, écrit avec Ndongo Samba Silla. Vous remarquez, je vous cite, que ce franc CFA a été créé avec la complicité plus ou moins active d'élites africaines parvenues au pouvoir et si maintenant avec le soutien de l'Élysée. Ce qui veut dire, à rebours, que si certains pays africains veulent quitter cette zone franc CFA, les élites doivent changer aussi.
Eh bien oui, alors
c'est ce que j'en déduis naïvement.
Absolument, c'est un problème assez difficile à résoudre pour les citoyens africains parce que encore une fois, il y a un jeu de dépendance, de pression et les dirigeants qui arrivent au pouvoir sont en général favorables au franc CFA. Enfin, en tout cas, voilà, on s'arrange pour que ce soit le cas. Donc pour quitter tout ça, c'est compliqué. Cela dit, il y a un projet de monnaie unique, je sais pas si il faut le préciser, mais un projet dans la zone CDAO qui comprend donc une partie de la zone franc, l'UEMOA. Justement, là, le Nigeria fait partie de ce projet. Le Nigeria aimerait que les pays de l'UEMOA donnent un plan de divorce de la zone franc. Et pour l'instant, ça ne vient pas. Donc ces dirigeants sont très très frileux, effectivement, pour essayer de sortir de tout ça. Mais il ne faut pas désespérer.
Alors, vous dites aussi que dans l'hypothèse où un pays africain aujourd'hui dépendant du franc CFA parvenait à le quitter, il faudrait qu'il y ait plusieurs conditions, dont la première, qui paraît élémentaire mais très vraie et difficile à mettre en œuvre, c'est une bonne gestion monétaire.
Oui, alors on peut aussi prendre l'exemple des pays qui ont quitté cette zone franche, je pense à la Mauritanie et à Madagascar, qui chacun ont créé leur monnaie dans les années 70. Jamais cette monnaie, jusqu'à aujourd'hui, n'a été remise en cause. L'existence de cette monnaie n'a jamais été remise en cause par ces pays. Et il a fallu qu'ils apprennent à gérer, effectivement. Ça n'a pas été forcément facile au départ. Et c'est aujourd'hui compliqué toujours parce que voilà, il y a des aléas économiques qui se posent. Mais voilà, ils ont une certaine, quand même, une certaine indépendance aujourd'hui monétaire. Bon, ce sont des combats concomitants qui doivent être menés par les citoyens africains.
C'est-à-dire créer une monnaie, la faire reposer sur une valeur or, par exemple, même si l'or n'est plus la valeur sur laquelle reposent les monnaies. Mais c'est difficile, il faut trouver une monnaie qui ait une réelle valeur, et non pas simplement faire fonctionner la planche à billets.
Oui, oui, bien sûr, c'est tout un ensemble de mécanismes qu'il faut mettre en place. Alors justement, certains aujourd'hui disent qu'il ne faut pas mettre fin aux francs CFA, mais par contre, il faut leur attacher un panier de monnaies, pas seulement l'indexer sur l'euro, oui, mais sur la monnaie chinoise, enfin, voilà, un certain nombre d'autres monnaies, ce qui pourrait faciliter une certaine flexibilité dans pour l'économie. En fait, il y a plusieurs possibilités possibles, mais celle-ci ne réglera pas la question de souveraineté monétaire politique qui se pose aujourd'hui. Voilà, dans le livre, on donne plusieurs pistes de sortie possibles de la zone franc. Donc, il y a cette possibilité de créer des monnaies nationales qui seraient reliées entre elles aussi par une monnaie commune. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses quand même qui sont envisageables. Et ce ne sont pas des choses nouvelles. Ça a été déjà proposé au début des années 70 par des économistes.
Avec l'appui, j'imagine, de l'Union africaine.
Par exemple. Oui, il y a beaucoup de choses à imaginer. Et effectivement, il faut aussi des institutions fortes.
Parce que le passage de ce franc CFA à l'euro, en quelque sorte CFA, n'a pas changé fondamentalement cette situation de dépendance. Autrement dit, l'Europe n'a rien changé.
Non, et la France s'est arrangée à l'époque pour garder la gestion de ce système CFA. La logique aurait voulu que ce soit plutôt effectivement l'Europe, la Banque Centrale Européenne, oui, qui gère tout ça, mais non, c'est resté géré par le Trésor français. Et moi, ça a été un tour de passe-passe de la part de la France, qui lui profite encore aujourd'hui.
Sept jours en Afrique.
Et partons maintenant pour le Cameroun, Fanny Pigeot, où les électeurs sont appelés aux urnes demain pour élire leur président. Toute la semaine sur RFI, nous vous avons proposé des reportages signés Karine Franck. Reportage sur le pays aujourd'hui, dans la partie francophone et la région anglophone aussi, sous tension, on le sait. Écoutez par exemple ce reportage réalisé dans la ville quasi déserte de Boya, la capitale régionale du sud-ouest, l'épicentre de la crise anglophone.
Passé le checkpoint à l'entrée de la ville, on peut voir la carcasse d'un camion calciné. Peu de monde dans les rues, la plupart des commerces sont fermés, très peu de voitures circulent. Cet acteur de la société civile qui préfère garder l'anonymat a fait le choix de rester.
J'ai dû changer la porte en bois que j'avais, j'ai remplacé par une porte en fer. J'ai mis des barricades autour des fenêtres, bref, tous les endroits où des balles peuvent traverser. Donc j'ai pris ces mesures de sécurité, j'ai stocké ma maison avec assez de vivres pour tenir même un mois. Et puis j'ai pris beaucoup.
À Boya, plus rien n'est comme avant.
La ville de Boya, c'est une ville bruyante de vie. C'est une ville universitaire, ça regorge beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup d'affaires qui tournent par ici. Mais nous avons constaté qu'on ne voit plus ça. C'est mort, ce qui n'a jamais été le cas depuis 2002 que j'ai vu dans Boya.
Dans certains quartiers comme Moliko et Bongo Square, on pouvait faire la fête jusqu'au petit matin. Ce temps-là semble révolu, regrette ce jeune homme.
Il n'y a plus de raison pour moi d'aller dans un bar. Tu vas appeler un de tes amis. Il te dit soit il est à Yaoundé, soit il est à Douala. À 19h, tu es déjà chez toi. Et de toutes les façons, il n'y a plus de bar.
À l'université, les cours sont suspendus. Ils devraient reprendre le 10 octobre, après les élections.
Le résultat de cette élection est à suivre évidemment demain dans nos journaux. En cette période de rentrée scolaire en Afrique, nous parlions du Togo samedi dernier. Partons pour le Mali maintenant, où les écoles du centre du pays fermées jusqu'ici à cause des tensions dans la région, tensions c'est le moins qu'on puisse dire, ont à nouveau accueilli les enfants cette semaine. Reportage de Serge Daniel à Mopti.
Accueilli par les élèves dans une classe de l'école primaire Moussawal, située à 20 km de Sévaré. C'est tout un village qui fête l'ouverture de l'établissement un an après sa fermeture pour raison d'insécurité. Brahim Sissé, conseiller pédagogique.
Vous avez vu comment la population s'est mobilisée par rapport à l'accueil. Elle est partante pour que ça soit pérennisé. C'est ce que la population veut, qu'elle continue à ouvrir, que les enfants continuent à venir à l'école.
Dans un premier temps, plusieurs centaines d'écoles du centre du Mali sont concernées par l'opération de réouverture. Et pour encourager élèves et enseignants, le premier ministre malien est arrivé dans la région de Mopti, les bras chargés. Soumeilou Boubé Maïga.
Nous avons décidé de tout faire pour que l'école reprenne ici. Souvent, quand il retourne à midi, il ne peut pas revenir. Nous allons tout faire pour créer une cantine ici, pour que les enfants puissent rester jusqu'en fin de journée. Nous allons aussi leur donner des fournitures scolaires pour permettre aux enfants, pour décharger les parents de dépenses qu'ils ne peuvent pas supporter.
À cela, il faut ajouter l'expérimentation d'un nouveau dispositif de sécurité autour des écoles.
Suite d'une semaine d'actualité, suite et fin d'une semaine d'actualité avec vous, Fanny Pigeot. Vous êtes une femme extraordinaire, c'est ce qui écrit un de nos auditeurs, figurez-vous, cette semaine. D'autres auditeurs ont surtout parlé du franc CFA en le rejetant. Par exemple, Cephas Gaël nous dit « Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas sortir de cette monnaie ?» Abdoulaye Abakar dit « À quand la fin du franc CFA ?» On en parle beaucoup, mais les dirigeants ne font rien. Un autre auditeur nous dit « Il n'y a que les élites qui dirigent notre pays qui sont pour cette monnaie. » Je ne sais pas si ces auditeurs sont représentatifs, mais ils semblent refléter un rejet total de ce franc CFA. Et en tout cas, chez les générations les plus jeunes.
Oui, c'est quelque chose qu'on constate un peu partout dans les pays concernés. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que tous ceux qui s'expriment n'ont pas forcément en tête tous les détails techniques qui accompagnent cette monnaie. Mais ce qui est évident, et je pense que beaucoup s'en rendent compte, c'est que cette monnaie dessert économiquement leur pays. Elle restreigne le développement. Et on le voit aux chiffres. Une majorité de ces pays font partie des pays les moins avancés. Une majorité de pays ont sont mal classé dans l'index IDH, indice de développement humain, il y a un certain nombre de choses très visibles qui montrent que le franc CFA n'est pas une monnaie qui avantage les économies de tous ces pays.
Parce que le fait d'appartenir à ce franc CFA pour un État africain l'empêche de créer des richesses pour sa population ?
Oui, c'est ce que je disais, parce que pour défendre la parité fixe avec l'euro, on limite les crédits intérieurs, mais il y a aussi une question de valeur trop forte du franc CFA qui du coup handicape les exportations et facilite les importations. Ce n'est pas de nature à développer une industrie locale. Voilà, il y a vraiment tout un ensemble de contraintes qui font que ces pays se développent très très mal et très peu.
C'est ce que vous écrivez, le système CFA n'a stimulé ni l'intégration commerciale entre ses membres, ni leur développement économique, ni leur attractivité économique. C'était pourtant le but annoncé.
Affiché, oui. Mais on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et encore une fois, que tout ça est à l'avantage, malheureusement, de la métropole, ou heureusement pour elle. Mais ce système n'est, à mon sens, et à notre sens, avec mon co-auteur, n'est pas tenable très longtemps, économiquement et politiquement.
Alors que serait la France sans le franc CFA, à votre avis ?
La France aurait un peu plus du mal à s'en sortir, mais je pense que c'est surtout aux pays africains qu'on doit penser. Et si ces pays africains ont la possibilité de se développer plus, ce sera peut-être aussi à l'avantage de la France. Donc il faut voir vraiment les choses à moyen et à long terme.
On a l'impression, en lisant votre livre, que ce franc CFA, c'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, c'est peut-être le dernier signe de l'existence de cette France-Afrique.
C'est à notre sens l'armature, mais il faut pas oublier aussi qu'à côté la présence militaire qui est liée aussi. Enfin voilà, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui perdurent. Mais le franc CFA, c'est peut-être ce qui l'a fait tenir de manière assez précisément. Enfin, on le voit quoi. Quand on fait des recherches sur la question, on se rend compte que le franc CFA est au cœur du dispositif de cette France-Afrique.
Un signe extérieur de richesse, en quelque sorte.
Pour les uns et pas pour les autres.
Merci Fanny Pigeot. Avec Ndongo Samba Sila, vous avez écrit L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. C'est un livre publié aux éditions La Découverte. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée, cette fois le magazine qui interroge, vous savez, ceux qui pensent le monde. Notre invité sera le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, professeur à l'université Columbia à New York. Nous parlerons notamment de son œuvre avec lui pendant une petite heure. Demain, 17h10, heure de Paris, à ne pas manquer. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.